Soyez les bienvenus sur Vogue Radio. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur Vogue, la station balnéaire en Pays Royanais et Marais-Oléron.
Chut, on écoute la télé avec l'espace culturel Leclerc, votre spécialiste, centre commercial Martrou à Rochefort.
Chut, on écoute la télé avec L'Angélis, votre maître artisan glacier en Charente-Maritime, élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente en Charente-Maritime sur langélis.com. Vente sur place également à fond couverte.
Chut, on écoute la télé avec votre concessionnaire Volkswagen, avenue André Dulin à Marennes. Vente de véhicules neufs, occasion, réparation et location de California aménagée pour des week-ends en toute liberté.
Merci de nous rejoindre pour Chute, on écoute la télé l'hebdo sur Vogue Radio, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de votre émission Chute, on écoute la télé de ce lundi, nous allons consacrer une large partie de cette émission à la sortie du film Faïm qui sortira dans les salles mercredi avec Pierre-François Martin Laval, le réalisateur, qui sera avec nous, accompagné d'Assad Amen, le jeune héros du film, et celui qui joue son papa, Mizano Rahman, qui sera également tout à l'heure en notre compagnie. Rendez-vous à ne pas manquer. En fin d'émission, deuxième coup de cœur ciné cette semaine, et oui, on met les petits plats dans les grands dans Chute, on écoute la télé, au très beau film Camille. Nous aurons le plaisir de recevoir Boris Lochkine ainsi que Nina Maurice qui joue le rôle de Camille Lepage, cette journaliste tuée en République Centrafrique, et Marie-Vonne Lepage, la maman de Camille, qui sera avec nous et qui nous parlera évidemment de son émotion à la première projection de ce film spécial Camille. C'est donc en fin d'émission. Nous aurons le plaisir de recevoir également aujourd'hui Xavier Lemaître pour le lancement de la série Olivia. Nous aurons aussi le plaisir de recevoir Fred Bianconi pour le début de son marche dans Un si grand soleil, et le chef cuistot Norbert Tarrère également sera notre invité exceptionnel. Vous l'avez compris, c'est chargé aujourd'hui. On va commencer tout de suite par les audiences de la semaine dernière. C'est parti.
Les tops et flops d'audience.
Allez, un petit mot vers les audiences de la semaine dernière avec, pour commencer, bien lundi dernier, TF1 avec Le Premier Oublié, le premier film de Matt Pokora, fait un carton plein, 6 500 000 téléspectateurs pour 27,2% de part de marché. L'Amour est dans le pré, du coup, est très très loin derrière sur M6 avec 14,4% de part de marché, avec néanmoins un très beau score, hein, 3 434 000 téléspectateurs. The Victim sur France 2, petit score, hein, même pas 10% de part de marché, 2 237 000, et une si belle époque sur France 3, est à 1 612 000 téléspectateurs, 7,1% de part de marché seulement. Mardi, c'est la surprise, c'est France 3 qui arrive en tête des audiences. La série avec Julie Depardieu, Alexandra L arrive en tête avec quasiment 4 millions de téléspectateurs et 18,2% de part de marché, soit sur TF1, arrive deuxième avec 17% de part de marché et 3 881 000, très peu de téléspectateurs d'écart seulement. France 2, tout le monde joue avec l'histoire, 2 660 000 téléspectateurs et 13,3% de part de marché, et c'est un échec pour M6 et son objectif 10 ans de moins, 1 581 000 téléspectateurs seulement et 7,9% de part de marché. Et puis mercredi, il y avait Good Doctor sur TF1 qui arrive en tête. Jeudi, c'est Pour Sarah, c'était le final également, c'est en tête des audiences. Donc voilà ce qu'on pouvait dire déjà des audiences de la semaine dernière. Juste avant d'accueillir notre spécial Faïm, c'est Pierre-François Martin Laval et Assad Ahmed qui arrivent dans Chute, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine, c'est Faïm qui sort au cinéma mercredi. Alors on va en parler, une large partie de cette émission avec Pierre-François Martin Laval qui est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, nous sommes là.
Merci d'être avec nous, et Assad Ahmed qui est avec nous aussi, qui joue le rôle de Faïm. Bonjour Assad.
Bonjour.
Merci d'être là aussi. Alors je suis très ému de vous avoir parce que j'ai vu le film en avant-première festival du film francophone d'Angoulême, et j'ai pris une énorme claque. On peut le dire, Pierre-François.
Je suis désolé de vous avoir cogné, et en même temps, je l'ai un petit peu fait exprès. Mais rassurez-vous, je me suis pris la claque moi-même en lisant le livre Un roi clandestin, dont je me suis très largement inspiré, évidemment, pour raconter cette histoire vraie du petit Faïm, jeune joueur d'échecs, SDF, sans papier.
Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que là, il y a un miracle, c'est comment on trouve Assad, justement, pour jouer ce rôle, jouer en plus un rôle de quelqu'un qui existe vraiment.
Ben, c'est là où je parle de miracle. Après, je n'ai pas envie de dire que c'est que de la chance. Je pense que c'est avant tout le gros boulot du directeur de casting, Mohamed Belhamar, et ses collaboratrices qui l'ont cherché, qui ont cherché Assad sans savoir s'il existait. Ça a pris toute l'année dernière. Et malheureusement, ils ne l'ont pas trouvé. Et le dernier enfant que j'ai auditionné, quand il est arrivé, mesure 1m80, donc c'était encore la catastrophe, on était désespérés. Mais quand il est parti, le directeur de casting a eu l'idée de le regarder partir, il a vu partir bras dessous avec Assad. Et c'est là où on a sauté sur Assad, parce qu'on a vu dans son regard qu'il y avait certainement un Fahim qui sommeille. Et manque de peau, Assad ne voulait pas passer les essais, il parlait pas français, il venait d'arriver. Il était là depuis 3 mois, il rejoignait son père qui était réfugié politique. Notre traductrice a essayé quand même de lui expliquer que ce serait bien qu'on l'auditionne, etc. Bon, je vous passe à... En fait, ça a pris un mois de répétition avec lui, jusqu'au jour où il a sorti ses tripes comme ça devant moi en répétition. Et je me suis dit, mon Dieu, ça y est, on peut démarrer le film. C'est prodigieux ce que fait Assad. C'est très rare parce que déjà, ne pas jouer dans sa langue... C'est très difficile, on voit des super acteurs et actrices françaises dans des films américains qui sont un petit peu ridicules quand même dans une autre langue. Et là, il joue en plus des situations qui sont presque inhumaines, quoi. Donc c'est très difficile, même pour un grand acteur à jouer. Et lui, voilà, il nous a offert ça.
Cette première expérience, Assad, de cinéma, comment tu l'as vécue ?
J'avais peur parce que je parlais pas bien français. Je parlais pas du tout français. Moi, j'ai pas envie de faire des films. Et mon père, il m'a dit, il y avait mon copain qui est mon oncle, ils ont ramené à nous, à mon père, que vous voulez que votre fils il vient avec nous. Bah, mon père dit que pour faire un casting de film. Bah, moi, je voulais pas. Et mon père, il m'a dit que pour venir au film.
Il fallait y aller.
Oui.
Tu regrettes pas?
Oui.
T'as perfectionné ton français du coup au fur et à mesure, oui, du film. Donc l'apprentissage qu'on voit de la langue dans le film, c'est quasiment l'apprentissage en temps réel aussi qu'a vécu Assad, Pierre-François.
On essayait de le vivre en parallèle. Parfois, c'était très difficile pour Assad parce que à cause d'un choix de décor, Assad devait jouer une scène où il parle bien français alors qu'il parlait pas encore un mot, et plus tard le contraire, c'est-à-dire au moment où il a commencé à mieux parler français, à bien se débrouiller, vers la fin du tournage, je lui demandais de faire une scène du début du film où il doit être très maladroit, donc il a fait aussi cette prouesse, quoi. Il y avait une maîtresse qui était sur le tournage qui lui donnait des cours. Et puis il nous a quittés en parlant, c'était assez magique. En fait, Assad a vécu, nous a fait vivre un peu un deuxième film dans le film. Par exemple, Fahim n'a jamais vu la mer, Fahim rêve de voir la mer, bah Assad c'était pareil. Et Assad a vu la mer pour la première fois, bah le jour où on lui a dit, ton personnage la voit pour la première fois. Il s'est passé plein de trucs très très beaux comme ça.
Ça qui rend le film, je pense, encore plus fort, encore plus émouvant. Tu avais connaissance de l'histoire de Fahim, toi, Assad ?
Non, avant je connaissais pas. Et quand je suis rentré dans le film, ils ont rencontré le scénario, comme ça.
Tu l'as rencontré, Fahim ? Le vrai ?
Oui, j'ai rencontré avant le tournage, une fois. Il m'a appris comment jouer aux échecs.
Il t'a raconté son histoire ?
Non, il m'a pas rencontré son Insta, mais il m'a appris le jeu des échecs.
Ça, c'est bien, déjà. Tu vas devenir un maître d'échecs, toi aussi, du coup, maintenant.
Non, là, je veux pas.
Ouais. Il aime beaucoup les échecs, il y a pris goût. En fait, il a pris des cours, évidemment, avant le tournage, et au bout de 9 jours de cours, ce qui est pas non plus énorme, Christophe Casamance, donc son entraîneur, lui a dit, est-ce que tu voudrais voir un tournoi, comment se déroule un tournoi? Assad a dit non, moi si je vais au tournoi, c'est pour jouer. Et donc, on l'a inscrit et il a gagné, c'est parti. Et il est monté sur le podium et il a dit, qu'est-ce que tu as dit, Assad?
Je l'ai dit, je suis Fahim.
Exactement, t'as bien raison. Le film, est-ce qu'il a été tourné? Alors, il y a une partie qui a été tournée au Bangladesh, en Inde, précisément. Il y a aussi une partie qui a été tournée dans des vrais tournois d'échecs. Ou alors ces tournois d'échecs étaient vraiment faits pour le film et c'était de la figuration. Comment ça s'est passé?
Eh bien, on s'est posé la question, évidemment, en préparant. Au début, on se disait, il faut vite qu'on aille au vrai championnat de France pour... pour profiter de ce réalisme et puis de la foule, parce que ça coûte très cher de reconstituer, et puis on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas. Donc en fait, on a fait des reconstitutions de tournois, mais avec des vrais joueurs. Donc j'avais les enfants, la fédération, voilà, les joueurs que vous voyez sont tous des joueurs d'échecs. D'ailleurs, ils font des vraies parties. Hein. Les seuls qui n'étaient pas des vrais joueurs le sont devenus. C'est donc Assad et les petits de sa classe qui ont appris en cours intensif. Voilà.
Isabelle Nanty, Gérard Depardieu, qui accompagne Assad dans ce film, et son papa, celui qui joue son papa pour le coup. Assad, ta rencontre avec Gérard Depardieu, est-ce que tu n'as pas dû avoir conscience tout de suite que c'était certainement l'acteur le plus connu en France?
Avant, je ne savais pas que Gérard Depardieu, il est un grand acteur de français. Mais après, j'ai reconnu, mes amis, il m'a dit que c'est un acteur. Moi, j'ai dit que lui, c'est un acteur, on ne dirait même pas. on dirait même pas, mais quand je l'ai vu, la première fois, Gérard Depardieu, bah, j'avais peur parce que, voilà.
Impressionnant.
Oui, c'est ça.
Et la rencontre à tous les deux, vous l'avez vécu?
Ah bah oui, j'étais aux premières loges, j'ai envie de dire, j'oublierai jamais, parce que...
Ça a dû lui faire du bien, lui, quelque part, de donner un réplique à quelqu'un qui n'était pas forcément, voilà, qui ne connaissait pas forcément, qui ne connaissait pas son parcours, sa carrière.
C'est exactement ça, vous savez, en principe, une personne connue n'aime pas qu'on soit impressionné, qu'on passe son temps à l'espionner, à la regarder. Bon bah là, il s'est retrouvé, Gérard, face à un petit qui aime les stars, mais de Bollywood uniquement, et donc qui ne connaît pas Gérard. Et surtout, leur rencontre a démarré par la scène de la rencontre, c'est-à-dire au moment où Fahim foudroie du regard Depardieu. Parce que Fahim, voilà, n'est pas péteux. Et donc, je pense que Depardieu a été conquis par la justesse, quoi, de la sincérité de ce regard. Et surtout, dans cette même journée, j'avais demandé à Depardieu de faire pas mal de choses avec les pions, avec les échecs, et ça rendait dingue Depardieu. Il me disait, c'est trop compliqué ce que tu me demandes. Et c'est Assad qui a essayé d'aider Depardieu en se foutant de sa gueule. C'est-à-dire qu'Assad trouvait qu'il se plantait. Donc, je pense que ça a créé des liens tout de suite, quoi. Le fait qu'il se moque de lui. Du coup, on s'est mis à table. Et Depardieu s'est mis à apprendre les échecs avec le même entraîneur qu'Assad. Et du coup, on a l'impression que Depardieu est un vrai, vrai super entraîneur, quoi.
C'est le film à ne pas rater de ce mois d'octobre. Il sort mercredi dans les salles. Dernière petite question pour Assad. C'est toi qui vas avoir le mot de la fin avant d'accueillir le comédien qui joue ton papa. Est-ce que ça te donne envie de continuer dans le cinéma et de faire d'autres films maintenant?
Oui. Si eux, ils disent que si je veux faire ou pas des films, bah moi, je dis c'est oui.
Si. Tant qu'à faire.
Oui.
Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Fahim, mercredi dans les salles. On va tout de suite écouter la bande-annonce.
Insérer dans la société, est-ce que ça c'est dans votre programme, monsieur Mohamed?
Il
y a un club d'échecs pas loin d'ici.
Elliot, t'es mort! Si t'as plus de dames, t'es mort. Bam!
Il est un petit peu dur.
Tête d'huître.
Ça a pas de tête, une huître.
Un peu bourru, quoi.
Fais chier! Oh!
Je suis sûr que vous allez très bien vous entendre.
Mais qu'est-ce qu'il veut, lui?
I want to be champion of the world.
Tout le monde dehors! Y a pas de sport plus violent que les échecs.
T'es mort. Not win.
Regarde la pochette à la mer que blanc!
Paf, bonne idée. Je devrais faire pareil avec certains. Et.
À la pause, on fait du sport.
Il est relou. Hein.
C'est quoi, relou?
Fahim comme les autres.
Il est relou.
Vous êtes elle?
3 000 euros.
Vous faites une demande d'asile en France. Votre demande est refusée. Vous avez un mois pour quitter le territoire.
Et on va continuer à parler, bien sûr, de Fahim d'ici quelques instants, puisque nous allons recevoir celui qui joue le père de Fahim, Mizanur Rahman, qui sera avec nous. Alors surtout, ne bougez pas, on revient tout de suite, juste après ça.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite.
Et tout de suite, toute l'info sportive, c'est Vogue Radio Sport.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on continue à parler de Fahim. Vous savez que c'est notre coup de cœur ciné de ce mois d'octobre. Et nous allons parler maintenant avec celui qui joue le père de Fahim. C'est Mizanur Rahman qui est avec nous. Bonjour Mizanur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Une histoire incroyable hein, qu'on a parlé avec Pierre-François Martin Laval il y a quelques instants et Assad Ahmed. Comment vous êtes arrivé déjà dans cette aventure Mizanur? Casting?
Ouais, casting parce que dans la vie, je suis un cuisinier, ok. Aucune expérience dans le film, ok.
Aucune expérience de comédien?
Aucune expérience. Ok, c'était quelqu'un m'a appelé, ok, ou qui travaille avec les PF, ok. Il m'a dit bien ici pour les castings. J'ai dit comment c'est possible parce que dans la vie jamais j'ai fait ça. C'était complètement une nouvelle expérience pour moi. Après, il a dit non, bien ici, c'était possible pour toi. J'ai imaginé, ok, c'était parfait rôle pour toi. Ok, donc j'ai dit ok, pas de problème, je viens et PF aimait beaucoup, voilà, c'est ça la chose.
Et là, première journée de tournage, les caméras, plateau de cinéma, qu'est-ce qu'on se dit là? Est-ce qu'on a un peu peur là?
C'était catastrophe pour moi parce que j'ai peur parce que c'était la première fois que j'ai fait quelque chose en face de caméra. Mais c'était vraiment difficile quand vous faites quelque chose en face de caméra et ailleurs, c'est pas la même. Ok, mais après PF il a dit t'inquiète, ça va venir, ok, petit à petit, j'ai pris toutes les choses, ok, j'espère j'ai fait bien, ok, ça grâce à PF et les équipes qui travaillaient très bien pour nous, je voudrais donner merci les équipes et toutes les équipes qui travaillent pour nous et même PF.
Alors, là, en plus, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous aviez jamais fait de cinéma ni joué à la comédie. Quand je vois les scènes que vous avez sorties, c'est juste incroyable. Je me souviens, pour ceux qui verront le film, pensez à ce qu'on est en train de dire, mais à cette scène de commissariat où le père est anéanti quand il comprend qu'il va être reconduit chez lui. Ça, il faut aller chercher très très loin, mine de rien. Faut aller chercher du personnel, faut aller chercher plein de choses pour sortir des choses comme ça.
C'était une bonne expérience dans la commissariat quand j'ai fait cette chose, ok. C'était totalement grâce à PF parce que il a dit imaginez ça ta fils, ok. Il va rester ici, ok. Et toi qui parti chez Bangladesh, ok. Quand j'ai fermé les yeux, ok. J'ai essayé d'imaginer cette chose, ok. Et après tout est arrivé automatique.
Tu es originaire de là-bas, du Bangladesh?
Oui, je suis bengalais.
Il y a longtemps que tu es en France?
Depuis 2007, je suis en France, mais désolé, je ne peux pas parler bien français.
Non, mais attends, c'est très très bien. Et le retour justement là-bas pour le tournage en Inde?
Très bonne expérience, ok. Toute l'équipe nous restait là-bas presque 15 jours, comme les familles. Très bonne équipe, très bonne expérience pour toute ma vie.
Assad, Ahmed, votre rencontre à tous les deux, il est juste incroyable, Assad.
Ouais, il est très mignon, très mignon. Comme ma fille, voilà, parce que je suis un garçon aussi. Quand j'ai travaillé avec Assad, je pense mon garçon.
Une fusion très forte entre vous à l'image. Ça se voit, le père et le fils, ça joue plus, on dirait presque que c'est naturel quoi.
Ça c'est comme les miracles. C'était comme les miracles pour moi parce que beaucoup de gens, ma famille aussi, il a dit ah c'était pareil que les visages, c'était presque même. J'ai dit c'était un miracle pour moi parce que dans la vie vous trouvez pas tout le temps les images comme ça.
Vous restez en contact de temps en temps ensemble?
Oui, de temps en temps, pour nous rencontrer, ok, pour boire un café ou quelque chose, voilà, comme just to say hi, hello.
Bon, en tout cas, Fahim, vous l'avez compris, c'est le film qu'il ne faut pas rater au cinéma, il sort mercredi, c'est le nouveau film de Pierre-François Martin Laval qui est avec nous, justement, il y a quelques instants avec Assad aussi, Isabelle Nanty, Gérard Depardieu, un casting incroyable, une histoire incroyable, et voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir, vous êtes très ému en voyant ce film. Comme nous, on l'a été en tout cas. Et j'espère qu'on vous a donné vraiment envie pendant cette vingtaine de minutes et bien d'aller le voir, parce que c'est vraiment un film à ne pas rater. Merci beaucoup, Mizanour.
Merci beaucoup à tous. Ok, j'espère tout le monde, à tous les spectateurs qui regardent ce film. Ok.
Et ça t'a donné des envies pour continuer dans le cinéma?
Exactement pour ça, parce que comme j'ai dit dans la vie, je suis un cuisinier. Ok, mais j'ai aimé beaucoup le sept film. Ok, et j'ai essayé qu'il fait continuer si tous les spectateurs sont d'accord avec moi. Merci à tous.
Merci. On va tout de suite se requitter avec un petit extrait de Fahim. C'est mercredi au cinéma.
Départ pour le championnat de France, lundi 6h45.
Ça déchire.
Et c'est parti. Il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde.
Je ne change pas le règlement le jour de la compétition.
Tu connais le règlement, Sylvain?
Pas de papier, c'est un échiquier.
Donne-lui sa chance.
J'ai vu de la passion. J'ai vu des nains devenir des géants.
Je suis fier d'être votre professeur.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute On Écoute La Télé.
Allez, notre invité aujourd'hui dans Chute On Écoute La Télé, eh bien c'est Norbert Tarrère qui est avec nous. Bonjour mon cher Norbert.
Salut Alain, ça va bien?
Ça va très bien, merci d'être avec nous. Je suis très content de t'accueillir. On s'était une fois par téléphone pour Ice Show, je me souviens, à l'époque. Voilà, exactement, t'avais patiné dur là.
J'avais gagné même.
Exactement, t'avais même gagné.
Patiné dur avec 115 kilos sur le dos, c'est vrai que c'était compliqué. Deux lames de couteau au bout des pieds, c'est vrai que c'est pas évident, mais j'ai gagné, je suis content.
Bon, en tout cas, c'est un bel automne qui t'attend, puisqu'on va te retrouver eh bien, à côté de Daniel et nous dans la pièce. C'est pas du tout ce que tu crois, c'est pas ce que tu crois.
Exactement, alors c'est pas du tout ce que tu crois, c'est une contraction, hein. Bien sûr, c'est la faute, l'écriture est voulue, hein. C'est pas du tout ce que tu crois. On repart pour 35 dates en tournée dans toute la France avec Séverine Ferrer, Manu Silva et Elodie Wallace, qui sont aussi les deux auteurs de la pièce. Et on réécrit une nouvelle pièce qui s'appelle « L'avenir nous le dira ». Donc dès qu'on a fini « C'est pas du tout ce que tu crois », on rentamera « L'avenir nous le dira ». Enfin voilà, on est une équipe soudée avec la même équipe.
Alors, il y a eu des ouvertures de restaurants aussi. En septembre, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées pour toi. Il y a une nouvelle émission sur Sister dont on va parler aussi dans quelques instants. Mais tes ouvertures de resto, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Il y en a eu un à Rueil, hein, je crois.
Ouais, alors à Rueil, ma maison, on a ouvert Sapristi, le restaurant, d'accord, le bistrot de famille. Et on a ouvert la pâtisserie-boulangerie Perlin-Tatin, qui est annexée au restaurant. Voilà, à Rueil, on a ouvert fin juillet, début août. Ensuite, on a ouvert donc Splash à Asnières le 12 septembre. On l'a ouvert, c'est Bistrot d'eau vive avec une association avec les bateaux Riva. Voilà, donc pareil, toujours des bistrots avec la même formule, 4 entrées, 4 plats, 4 desserts. Produits frais à un prix défiant toute concurrence, 39,90€ entrée plat dessert. Les premiers prix sont à 29,90€ entrée plat dessert, voilà. Et on fait des choses fraîches, faites maison. On transforme tout sur place.
C'est ça qui est important. Et t'arrives à marier parfaitement la cuisine finalement, la télévision, le théâtre. T'arrives à dormir encore un peu?
Alors je dors bien, je dors pas beaucoup mais je dors bien. Et surtout je suis entouré d'associés et de chefs avec lesquels je travaille tous les jours au quotidien. Je suis en contact permanent avec les cuisines et les restaurants.
Norbert, à l'attaque des régions, ça c'est pour bientôt. Ça sera sur Sister, tu vas faire ton retour sur Sister après avoir arrêté en mois de juillet l'émission Norbert Commis d'Office. Et donc là c'est une nouvelle émission que tu vas nous proposer. Le concept en quelques mots, parce que là tu vas t'attaquer, dans le nom l'indique en tout cas, aux régions.
Eh ben c'est simple, après Norbert Commis d'Office, où je redressais des criminels de la cuisine, je me suis dit ça serait très drôle d'aller voir des spécialistes, alors pas forcément des professionnels de la cuisine, mais des amateurs qui ont une spécialité bien à eux, bien à leur région, accrochés à leur région. Et j'allais les affronter, les défier, par exemple sur le coup de canard farci des Landes, ou alors le Welsh ou le Waterzooi dans le Nord.
Le fameux Welsh du Nord.
Voilà, ou alors peut-être la fameuse choucroute ou le Bake-Off en Alsace. Bref, provoquer les régions et aussi bah, vivre au rythme des régions avec leurs traditions. Dans les Landes, on va peut-être voir une course landaise où j'ai une vachette au cul. On va voir des échasses aussi, une danse aux échasses. Et on va aller aussi à la rencontre d'agriculteurs, de producteurs, de confréries, parce que c'est important intéressant aussi de parler des confréries. Ce sont les gardiens du temple de notre tradition française de cuisine et des produits du terroir. Donc voilà, c'est ce que j'aime le plus. Voilà, c'est pas un concept, c'est une façon de voir les choses et une façon de présenter la France sous un autre jour et d'être fier de nos traditions.
Et ça, tu démarres les tournages là, courant octobre. Donc du coup, ça va arriver à l'antenne peut-être d'ici la fin de l'année ou tout début d'année.
J'espère que d'ici la fin de l'année ou début janvier, on pourra vous présenter cette nouvelle émission. Et j'adore parce qu'il y aura de la bonne humeur, de la vanne, mais aussi une pédagogie autour de nos produits et une découverte des régions françaises.
Une confiance renouvelée avec le groupe M6. C'est un peu ton groupe chouchou, quelque part, depuis le début, maintenant.
Bah, M6, c'est ma famille. C'est eux qui m'ont fait naître. C'est avec eux que je grandis. C'est avec eux que je travaille. C'est eux qui m'apportent quand même pas mal de choses, pas mal d'expériences et qui me font confiance. C'est vrai qu'ils ont un panel d'animateurs assez sympathique. Et c'est vrai que je me sens toujours bien au sein de cette famille parce qu'ils nous font toujours confiance.
Est-ce qu'il y a encore des cordes que tu as envie de mettre à ton arc? Du cinéma, par exemple?
Oui, je le cache pas. C'est vrai que là, je fais du théâtre. Je vais faire deux pièces après un one man show et deux pièces de théâtre. C'est vrai que je réfléchis et j'aimerais bien m'attaquer par la suite à un autre métier, une vraie profession qui est le cinéma. Et je sais que le théâtre est déjà un beau métier technique et je sais que le cinéma est totalement différent du théâtre. Mais c'est peut-être une nouvelle envie qui va s'ouvrir. Ouais.
Si on te proposait une autre chaîne, te proposerait par exemple un personnage récurrent, une série sur les tribulations d'un chef en cuisine. Est-ce que tu accepterais tout de suite ou justement parce que c'est trop proche de ton domaine, tu préférerais qu'on te propose d'autres rôles?
Non, justement, moi j'ai toujours commencé le théâtre, j'ai commencé un one-man show en cuisine. Tout ce que je fais, tout ce que je ne maîtrise pas suffisamment, alors je l'approche avec la cuisine. Comme ça me permet d'avoir un référent et si demain on me proposait une fiction télé dans la cuisine, j'accepterais bien volontiers.
Et bien voilà, le rendez-vous est pris. S'il y a des producteurs ou des réalisateurs qui nous écoutent, eh bien c'est le moment peut-être de vous creuser. Moi je suis sûr qu'il y a un truc à faire en tout cas avec ça.
Bah écoute, si jamais ça marche, tu seras mon agent, voilà. J'avais pas pensé à le formuler comme ça, mais c'est bien.
Bon, en tout cas Norbert, merci à toi d'avoir été avec nous.
Je dis merci à Alain Rousseau qui a été formidable. Passe à Alain Jeanne, après Alain Rousseau, Alain Jeanne, voilà.
Merci à toi en tout cas Norbert, on te retrouve au théâtre, en tout cas avec cette pièce. On va faire un petit extrait de toi dans tes œuvres, oui, sur Sisterte. Merci à toi.
Bah, très bien, merci beaucoup, merci aux auditeurs.
Oh, il est beau, le gars est beau, hein. J'en peux plus. Il est marié.
On y va.
Il laisse le charme opérer.
Peut-être qu'il avait envie de m'embrasser, hein. Pas.
Dégaine ses meilleures techniques de séduction.
On fait tout comme ça.
On fait tout comme ça.
Ok.
Et s'en sort miraculeusement grâce à son flegme légendaire.
Là, un peu de crème.
Merde.
Oh, ah bah dis donc, heureusement que t'es pas un mec, hein.
Madame Norbert, franchement, t'as de la chance, hein. Faut le garder.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, dans nos coups de cœur télé, eh bien, on va parler d'Un si grand soleil avec Fred Bianconi qui nous rejoint. Bonjour Fred.
Et bonjour, comment ça va?
Eh bien, ça fait super plaisir de te voir et puis surtout que là, eh bien, le personnage de Virgile va être en plein cœur de l'actualité pendant tout ce mois d'octobre. Ah. Et là, on va le revoir, mais de façon bien soutenue.
Oui, et on va rentrer bien dans sa vie, son secret, son passé. Ça va être assez mouvementé. Et il y a eu de très beaux moments, en tout cas dans ce tournage. Donc, a démarré pour moi le 20 juillet, quoi. J'ai tourné un peu tout l'été. Cette arche qui va être diffusée à partir de fin septembre, début octobre, jusqu'à à peu près mi-novembre, dans lequel le personnage va être sacrément secoué,
malmené,
ouais, et puis rattrapé surtout par. Par son passé, ça a été riche en événements et puis très très agréable à jouer, quoi.
Alors, première question que j'ai envie de te poser aussi, parce que ça fait maintenant un peu plus d'un an, hein, on s'est rencontré une ou deux fois, mais ça fait un peu plus d'un an maintenant que la série est à l'antenne. Est-ce que tu imaginais une envolée pareille, un succès pareil, et surtout que le pari allait être plus que réussi pour la chaîne et la production?
Bah, c'est toujours extrêmement difficile quand on fait un pari de savoir si on va gagner ou pas. Hein. Sinon, si on était capable de faire que des tubes quand on fait de la chanson ou que des gros succès quand on choisit un film, évidemment, on ferait que ça. C'est vrai que ça s'est envolé assez rapidement, que c'était pas évident qu'il y ait la place pour un troisième feuilleton sur les chaînes françaises. Et puis en fait, celui-là s'est imposé, je pense, de par son énergie, sa qualité d'image, l'état d'esprit général dans lequel les choses sont faites, parce qu'il y a un très bon état d'esprit vraiment au tournage, à la fabrication. Il y a une envie de bien faire de tout le monde, techniciens, acteurs, auteurs. Il y a une vraie volonté de faire quelque chose de bien. Le public suit, donc c'est formidable. C'est toujours surprenant. Un succès, c'est toujours surprenant.
Alors, le démarrage de cette arche va impliquer Léa?
Ah bah oui.
Ouais. Bien évidemment, ta fille.
Bien évidemment, puisque en fait, on va quand même partir. Si je dois pitcher l'histoire, en fait, c'est qu'il y a des personnes de son passé qui sont en fait ses anciens associés quand ils faisaient des choses pas très très nettes. Une personne en fait qui va redébarquer et qui est quelqu'un qui s'est occupé de Léa au moment où sa mère, donc ma femme, est morte soi-disant accidentellement dans un accident de voiture. Et donc c'est les raisons de sa mort. Évidemment, Léa va tout de suite se rapprocher de cette femme pour en savoir plus, puisque moi j'ai toujours caché ce qui s'était passé depuis des années dans le but de la protéger. Mais bon, la protection, les non-dits, ça fait parfois pas le
ravage.
Voilà, et pas tout à fait le chemin qu'on espère. Donc oui, Léa va être impactée. Et puis de là, il va y avoir tout un enchaînement en cascade, en fait, d'événements qui vont être périlleux pour tout le monde.
Alors ça va permettre de sortir justement un peu Virgile de la paillote, finalement, alors cette histoire.
Ah ben là, oui, puis bon, Virgile était déjà quand même sorti de la paillote. La paillote, ça, c'est un lieu...
C'est un personnage presque à part entière.
Ouais, c'est ça, c'est un lieu où les gens peuvent se croiser. C'est un métier comme s'il avait été prof, il serait dans une école, quoi. La paillote va apparaître, mais c'est pas, ça sera pas effectivement son lieu principal, quoi. Il va être beaucoup plus électron libre que ça.
Bon, des belles aventures. En tout cas, j'ai bien compris qu'il nous attendait pendant tout le mois d'octobre où on va pouvoir te suivre. Quel est ton meilleur souvenir de tournage maintenant avec du recul au bout d'un an? Est-ce qu'il y a une scène particulière qui t'a marqué? Alors, par exemple, le mariage qu'on a vu au mois de septembre, enfin le remariage plutôt entre Maël et Jérémy.
Je dois dire que dans les scènes qui m'ont marqué, celles avec Marthe Fieschi, qui fait Léa, ma fille, sont toujours riches en émotions. On s'est vraiment connecté dans la vie, en fait, avec Marthe, qui est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et que j'aime beaucoup en tant qu'actrice aussi. Donc on a une vraie complicité et on a fait encore là une bonne série de séquences
émotions.
Ouais, des séquences émouvantes, mais émouvantes, bon, parce que les séquences sont... Les scènes vont dans ce cadre-là, mais où on a vraiment une connexion entre l'un et l'autre qui fait que l'émotion est là, et elle est juste, elle est sincère. Et ça, c'est quand on a ce type d'échange avec un partenaire sur un plateau, c'est toujours riche, quoi, et joli.
En tout cas, on va te suivre pendant tout le mois d'octobre et novembre. Et on va suivre Virgile, évidemment, dans un si grand soleil pour cette grande aventure qui démarre. Merci à toi, Fred, d'avoir été avec nous.
Et merci à vous de me suivre.
On est là, tu le sais. Merci à toi, Fred, et à très vite.
À très vite, salut.
Virgile, ça faisait longtemps.
T'es sûr que c'est fini avec lui?
On n'est jamais sûr de rien dans la vie, ma beauté.
Je cherche quelqu'un qui s'appelle comme vous et qui aurait connu une Clémence Berville.
On a maintenant l'ADN de votre mère. On va pouvoir lancer de nouvelles recherches de comparaison génétique.
Avec ça, on peut aller vivre en Australie, payer les soins de Franck, avoir un peu la belle vie.
Vous avez pété un câble, quoi.
Allez, coup de cœur télé cette semaine consacrée à la série Olivia qui arrive jeudi sur TF1. Alors peut-être avez-vous vu déjà La Vengeance aux yeux clairs, les deux premières saisons. Eh bien là, on va faire un bond de 5 années avec le personnage d'Olivia joué par Laetitia Millot et qui va se retrouver un nouveau chéri. Eh bien oui, puisque c'est Xavier Lemaitre qui va jouer Christophe dans ce spin-off, dans cette nouvelle série qui est avec nous. Bonjour Xavier.
Bonjour Alain, merci de m'accueillir.
Merci d'être avec nous. Un bond de 5 ans en avant pour le personnage d'Olivia. Alors première question que j'ai envie de te poser Xavier, comment tu es arrivé dans cette aventure et est-ce que tu avais vu déjà avant toi les deux premières saisons de La Vengeance aux yeux clairs?
Non, c'est une bonne question parce que je n'avais pas vu La Vengeance aux yeux clairs précédemment et je suis arrivé dans ce projet pour la simple et bonne raison que le producteur, Jean-Sébastien Bouilloux, a eu la gentillesse de penser à moi pour le rôle de Christophe, donc l'amoureux de Laetitia. Voilà, on m'a envoyé les deux premiers épisodes, je trouve que c'était bien écrit, donc j'ai dit banco, j'y vais, ça me fait plaisir. Mais je connaissais pas les précédentes aventures, j'avais pas vu La Vengeance aux yeux clairs du tout, donc je suis arrivé un peu neuf dedans, et c'est une bonne chose peut-être, parce que je suis arrivé, je pense, en tout cas je l'espère, avec un peu de fraîcheur, voilà, face à ce personnage qui est toujours un peu difficile à appréhender amoureusement, en tout cas, qu'interprète Laetitia.
Alors ça va teaser grave, hein, puisqu'en fait le début de cette nouvelle saison commence par la fin de l'épisode 6, en gros, en quelques mots. Et on va remonter un petit peu le fil de l'histoire tout au long de ces 6 épisodes. Et donc toi, on va te voir apparaître à la fin du premier épisode, hein, je crois.
Exactement, je suis présent dans l'ensemble des épisodes, mais je suis quant à moi dans la partie plutôt feuilletonnante, c'est-à-dire que, bien entendu, l'ensemble des histoires va rattraper le couple que pourrait former Christophe, avec cette avocate brillante, mais qui est toujours un peu rattrapée quelque part par une part de son passé, par une ombre. Hein. C'est la raison pour laquelle il y a cette espèce de crescendo inverse, si je peux m'exprimer ainsi. On commence par le 6e épisode parce qu'on va découdre un peu l'ensemble de l'intrigue.
Alors, pour parler de Christophe, Xavier, comment on pourrait le définir, justement?
Alors, Christophe, c'est un personnage qui est un peu particulier parce que il y a toujours une part de doute. C'est un chirurgien, on ne sait pas très bien s'il est divorcé ou s'il a perdu sa femme, mais en tout cas il a un fils qui a l'âge de Lou, la fille de Laetitia. Voilà, ils se rencontrent au travers des activités des enfants, les activités sont tout simples, hein, ils ont une activité artistique, ils font de la danse, tous les deux de la danse classique, et puis ce gars-là, Christophe, qui est un chirurgien donc plutôt d'un niveau assez aisé, il est sympathique, il est entreprenant, mais pas trop, il a beaucoup de patience, mais on a toujours un petit doute sur ce Christophe, parce qu'il n'est pas un peu...
Trop gentil.
Il n'est pas... ça cache quoi? C'est quoi le risque, finalement? Voilà. Un peu le... je ne vais pas tout dévoiler, bien entendu, mais c'est un peu le fil rouge de ce personnage, toujours très rassurant, très gentil, très patient, surtout, avec son amoureuse, mais... Peut-être qu'il y a quelque chose, on ne sait pas. Enfin, voilà.
Que cache Christophe? En tout cas, on va le découvrir au fil de ces épisodes. Alors, on va retrouver Olivier Alessandri 5 ans plus tard, qui après le carnage, on peut appeler ça comme ça d'ailleurs, ce carnage familial, va s'être apaisé et va avoir envie, en tout cas, de sauver un peu la veuve et l'orphelin à travers son travail d'avocate. Donc, on va découvrir évidemment tout ça au long de ces 6 épisodes, puisque c'est parti pour 3 soirées.
Il faut souligner par ailleurs que c'est inspiré de faits réels. Hein. Je crois ne pas dire de bêtises en disant que il y a là-dedans une part de vérité, puisque au travers de tous ces procès, elle défend effectivement la valeur orphelin, mais les situations sont des situations qui sont parfois réelles.
Eh bien, on va retrouver en tout cas Olivia. C'est le grand retour du personnage d'Olivia Alessandri 5 ans plus tard. C'est le spin-off de La Vengeance aux yeux clairs que l'on retrouvera donc jeudi à partir de 21h05 sur TF1. Merci Xavier.
Merci à vous pour votre accueil.
Allez, à très bientôt, et tout de suite on se quitte avec un extrait d'Olivia, c'est jeudi 21h05 sur TF1.
Pourquoi vous faites ça? Défendre des causes perdues, se battre pour les autres?
Je suis avocate, je suis là pour vous aider.
Vous avez tout pour être heureuse. Vous avez vécu l'enfer. Pourquoi vous voulez replonger dans celui des autres?
Je me suis fixé une règle, celle de me battre contre l'injustice.
Tu m'oublies pas, Olivia. On va se retrouver, mère.
On se retrouve dans un instant avec l'équipe du film Camille, Nina Meurice, Boris Lochkine et Marie-Yvonne Lepage seront avec nous. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Les cinémas CGR de La Rochelle, l'Apollo Ciné 8 de Rochefort et l'Atlantique Ciné de Saintes vous présentent le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné aujourd'hui, eh bien, il est consacré au film Camille qui sort mercredi dans les salles avec Boris Lochkine qui est justement avec nous, le réalisateur. Bonjour Boris.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nina Meurice qui joue le rôle de Camille Lepage justement. Bonjour Nina.
Bonjour.
Et on a la chance d'avoir Marie-Yvonne Lepage qui est justement avec nous, qui est la maman de Camille. Bonjour Marie-Yvonne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les trois. Pour ceux à qui ça rappelle cette histoire, c'est un véritable hommage, ce film, moi que j'ai pu le voir un petit peu avant tout le monde, de cette jeune photojournaliste qui avait décidé de couvrir contre vents et marées et contre la vie de sa maman certainement, mais on va en parler aussi bien coûte que coûte, des pays en guerre. Et c'était le cas en République Centrafrique, ça lui a coûté la vie. Et aujourd'hui c'est un véritable hommage, ce film est absolument magnifique et bouleversant, Boris. Mais à quel moment vous avez eu déjà ce déclic pour nous raconter cette histoire aussi?
En fait, moi, je connaissais pas Camille. J'ai découvert son existence, malheureusement, le jour où elle est morte, dans la presse, un petit peu comme tout le monde. Je me suis dit, j'aimerais bien raconter cette histoire. Après, faire un film, ça prend beaucoup de temps. Ça a été d'abord prendre mon courage à deux mains et aller trouver la famille. Donc, aller trouver Marie-Vonne et puis aussi le papa et le frère de Camille. Et puis, les convaincre, d'une part, que c'était possible de faire un film de cinéma, donc un film de fiction, inspiré de l'histoire de leur fille, que j'étais la bonne personne pour le faire, que je le ferais autant que possible, le mieux que je pouvais avec ma sincérité.
Alors la question s'est posée, cinéma ou télévision, c'est toujours un peu sur un sujet comme ça, parce que des fois on veut toucher le plus grand nombre, et c'est des fois plus facile à la télévision, ou est-ce que vraiment dès le départ c'était pour le cinéma votre idée, Boris ?
Non, pour moi c'est le cinéma tout de suite, parce que j'aime être libre dans ma manière de faire les films, et que c'est plus facile d'être libre au cinéma.
Marie-Vonne, est-ce qu'il a été difficile d'accepter de voir sur grand écran cette histoire, l'histoire de votre fille? Est-ce que pour vous ça a été du mal à accepter ou au contraire vous avez pris ça comme un hommage, vous avez dit oui tout de suite?
Oui, on a dit oui après avoir rencontré Boris, après avoir découvert qui il était et puis avoir compris ce qu'il voulait faire autour de Camille. Et on a applaudi des deux mains parce que c'est quelqu'un qu'on a trouvé extrêmement humain. Déjà proche de Camille dans sa pensée, et puis respectueux de Camille, de son travail, d'elle-même, de son engagement et de nous-mêmes.
C'est ça qui est bien, il faut se sentir en confiance. Vous avez dû vous rencontrer certainement pas mal de fois, avant, pendant et encore maintenant, évidemment, à quelques jours, à deux jours de la sortie. Nina, première question évidemment, comment on se prépare à un rôle comme ça? Comment on se prépare à endosser le rôle de quelqu'un qui a vraiment existé, qui a une histoire? Comment on se prépare à ça?
Bah, Boris avait fait un merveilleux travail de recherche en rencontrant la famille évidemment et puis les amis, les collègues de Camille. Il avait retranscrit ses interviews, donc pour moi c'était le premier matériel pour rencontrer qui elle était. Et puis aussi, ce qui était très important pour moi, c'était que d'être crédible en tant que photographe et de vraiment être précise là-dessus. Donc j'ai travaillé pendant deux mois, enfin j'ai suivi pendant deux mois des photographes pour un peu comprendre. Aussi, je me disais qu'une manière de comprendre qui elle était, c'était d'arriver à regarder comme elle regardait les gens. Et donc, de regarder ses photos beaucoup. Marie-Vonne nous a très gentiment donné son disque dur. Donc, on a pu voir les photos de Camille et aussi son évolution, la vitesse fulgurante à laquelle elle a affiné son regard de photographe. Et c'était passionnant de regarder ça, d'essayer de comprendre comment elle regardait les gens.
Boris, tournage intégralement en République Centrafrique, est-ce qu'il est compliqué d'obtenir les autorisations? Comment a été accueilli justement ce tournage, cette histoire dans ce pays où tout est loin encore d'être résolu, hein?
Oui, compliqué évidemment, il faut le dire, la République Centrafricaine c'est un pays qui est encore partiellement en guerre, c'est un pays où 80% du territoire national n'est pas totalement contrôlé par le gouvernement central, mais par des chefs de guerre, par des chefs rebelles. Donc c'est un pays très compliqué, même à Bangui, la capitale, la situation est souvent volatile, il y a souvent des tirs la nuit, donc ça fait peur. Mais voilà, je pense que quand on veut vraiment quelque chose, on cherche la bonne manière de travailler, on cherche les bonnes personnes. Je dois dire que les autorités centrafricaines ont été très réceptives au projet. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai même rencontré le président de la République centrafricaine, j'ai rencontré plusieurs ministres. Donc c'est vrai que je suis monté très haut dans la hiérarchie des autorités centrafricaines pour avoir ces autorisations. Mais une fois qu'on a eu leur accord, ils ont fait vraiment le mieux possible pour que ça se passe bien. C'était essentiel, voilà, on peut pas tourner dans un pays comme ça en tournant à la va-vite, à l'arrache. Il faut faire les choses bien.
Alors, quelque chose m'a frappé parce que on est là tellement dans le réalisme qu'on se croirait à mi-chemin vraiment entre le documentaire et le cinéma. Je pense que c'est aussi le but recherché. Est-ce qu'on a vraiment des images 100% tournage ou est-ce que il y a eu un petit mélange dedans d'images d'archives de tout ce qui s'est passé en 2014 là-bas? C'est la question que je me suis posée aussi, où c'était vraiment des images 100% issues du tournage.
Non, il y a trois types d'images dans le film qui sont trois types d'images qui n'ont pas le même statut. Il y a majoritairement les images du film, les images de fiction qu'on a tournées pour le film. Il y a les photos de Camille Lepage. Toutes les images arrêtées dans le film sont des photos de Camille Lepage qui sont intégrées au film, et c'était un des gros enjeux, je dirais, stylistiques du film, de savoir comment ces photos allaient pouvoir s'intégrer. Et c'est capital parce que ces photos, elles nous font rentrer dans le regard de Camille, elles nous font voir comment elle regarde elle-même, et puis en même temps, elles nous donnent aussi le sentiment que c'est pas que du cinéma, on parle de quelque chose qui est vraiment arrivé, il y a des gens qui sont vraiment morts, ces événements ont vraiment eu lieu. Et le troisième type d'image, comme vous le disiez avec raison, il y a des images d'archives qu'on reconnaît parce qu'évidemment elles ont pas la même qualité d'image, elles sont beaucoup plus dégradées. Donc il y a des images d'archives, et c'était très important pour moi que les trois se mêlent, parce que c'est le mélange des trois qui font que on est au cinéma, mais qu'en même temps, on est dans un film sur une photographe, donc c'est très important qu'il y ait la photographie, et qu'en même temps, on est dans un film qui, tout en nous racontant un personnage, nous raconte l'histoire d'un pays, et que cette histoire, elle a vraiment eu lieu, que voilà, c'est l'histoire de vrais gens qui ont vécu, qui sont morts certains. C'est une vraie tragédie. C'est pas du divertissement.
C'est un film en tout cas nécessaire, je pense, qu'il éclaire aussi un petit peu sur ce qui a pu se passer là-bas et ce qui se passe encore. On va écouter tout de suite la bande-annonce de Camille, ça sort mercredi au cinéma, on l'écoute tout de suite.
Vous êtes étudiants tous?
Oui. Et toi, tu es journaliste?
Je fais de la photo, moi, juste. J'ai 25 ans.
25 ans? T'as pas peur?
Non. Continue, t'arrêtes pas. C'est la presse, ça va, ça va. C'est la presse, ça va.
La Centrafrique retient son souffle. 13 personnes sont mortes il y a 3 jours au nord de la capitale.
Et c'est les cas sont passés porte par porte, ils ont tué mon voisin, ils sont entrés chez moi.
Allez, de retour dans Chute en écoute la télé, notre coup de cœur cette semaine cinéma, c'est Camille. Bien évidemment, ce film hommage à Camille Lepage, cette reporter. Marie-Vonne, première projection, vous avez vu le film fini, on ressent quoi? Parce qu'il vous a été projeté notamment au Festival du film francophone d'Angoulême fin août, on ressent quoi à ce moment-là?
C'était déjà la deuxième fois que je voyais le film. La première fois, il était fini, pratiquement terminé. Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce que j'ai pu voir cette première fois, tellement j'étais bouleversée. Et hier, je l'ai revu en salle. Et je l'ai vu avec un autre regard. J'ai découvert des séquences, des scènes, des personnages. Comment Nina a pu s'approprier, en fait, par son personnage, Camille. Comment elle porte le film pendant une heure et demie, et comment ce film parle aussi bien de cette population centrafricaine, de la jeunesse, de leur vie au quotidien dans un pays en guerre et où malheureusement on en est encore là aujourd'hui.
Et c'est exactement ça. Nina, comment on vit ce tournage là-bas en République Centrafrique? Est-ce qu'on a des appréhensions quand on est comédienne de se dire voilà, bon, il va falloir y aller, on va sur le terrain, on va essayer de s'imprégner de ce qu'a vécu Camille, comment on appréhende tout ça? Est-ce qu'on a un petit peu peur quand même avant?
C'est sûr qu'il y avait une inquiétude générale sur le pays, et puis quand on lit la page de l'ambassade, on se dit oh là là, faut pas y aller. Après, moi j'avoue que c'est le genre de choses qui m'excite plutôt. Au contraire, je me suis dit voilà, c'est une aventure que je vivrai jamais. C'est un pays dans lequel j'irai pas s'il y a pas ce tournage. Et cette jeune fille, elle a une histoire incroyable, elle a un regard bouleversant sur les gens. Et au contraire, moi j'ai vu ça comme une vraie chance. Et je remercie encore Boris et Marie-Vonne de m'avoir fait confiance là-dessus. C'était une des plus belles expériences de ma vie.
On a l'impression que c'est un monde d'hommes, hein, quelque part, parce que quand on regarde le film, on avait vraiment l'impression qu'elle était la seule femme à être là-bas en tant que photographe, reporter de guerre. Et est-ce que c'est la réalité en même temps, ça, pour le coup, Boris?
Non, c'est pas tout à fait la réalité. Moi, justement, ce qui m'a beaucoup touché en commençant à travailler sur ce film, donc en découvrant, parce que je suis pas un spécialiste de photographie, donc j'ai découvert ce que c'était que le photojournalisme. J'ai rencontré beaucoup de photojournalistes, beaucoup de jeunes photojournalistes, et c'est une des choses les plus frappantes pour moi, c'est de découvrir que dans la jeune génération, il y a beaucoup de femmes. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce film, Camille, sur une femme photojournaliste, une jeune femme photojournaliste. Ces femmes, elles ont une manière de faire leur métier qui, je trouve, décale beaucoup la perception habituelle ou la représentation habituelle qu'on fait de ce métier. Tous les films qui parlent de photographes, de reporters de guerre, choses comme ça, ils se font tous sur autour de l'addiction au danger, de le mélange attraction-répulsion pour le risque et tout ça. Et là, je trouve que quand on parle avec ces femmes merveilleuses, moi j'en ai rencontré à Perpignan plein de jeunes photographes comme ça qui vivent dans des pays impossibles où on se dit c'est juste pas possible de vivre là-bas, comment elles font. La problématique est ailleurs, c'est des femmes souvent très informées, très compétentes, très cultivées, qui connaissent, qui comprennent très finement la géopolitique des différentes zones dans lesquelles elles sont. Voilà, et où je sens plus l'engagement que ces questions de virilité, d'adrénaline et tout ça, un peu rebattues dans la représentation qu'on donne au cinéma de ce métier.
Nina, quelle a été la scène la plus difficile pour vous ?
Bah oui, c'est sûr que c'est un tournage qui a pas été facile, mais bizarrement les appréhensions que j'avais, ou par exemple sur les scènes où il y a beaucoup de monde, ben ce qui était vraiment génial, c'était de sentir que les Centrafricains étaient très avec nous et qu'on faisait vraiment ce film ensemble. Et il y avait de la difficulté, mais je sais pas, c'est ce qui a servi le film aussi. Pour moi, Camille, elle a vécu ça, et donc pour moi c'était très, les difficultés que j'avais, elles me servaient pour le personnage.
Dernière question, comment on se sent à 2 jours de la sortie ? Tous les trois, Boris surtout, parce que là c'est celui, pour le coup, qui a tout mis dans ce film, la réalisation, tout, donc voilà, comment on se sent à 2 jours ?
Bah, on a un peu peur forcément, c'est vrai, j'ai mis beaucoup dans ce film, ça m'a pris 4 ans de ma vie un petit peu, donc c'est la conclusion dans 2 jours d'une longue aventure. Moi j'ai juste envie que le film y rencontre le public. Moi je trouve que Camille c'est une héroïne merveilleuse, c'est une héroïne française, et moi j'ai envie que les gens voient dans ce film un portrait de la jeunesse. Parce que souvent quand on dit portrait de la jeunesse, on imagine les jeunes qui traînent au pied des immeubles en fumant des pétards, ce qui est bien aussi, hein. Mais je pense qu'on peut avoir une autre représentation, et pour moi Camille c'est aussi une représentation de cette jeune génération très engagée qui a envie de changer le monde.
Nina ?
Ouais, je suis un peu comme Boris, j'espère que le public aura autant de plaisir à voir le film qu'on a eu à en faire. C'est un film qui a été très fort pour nous tous, c'était une rencontre magnifique avec ce pays, et je suis heureuse que les gens rencontrent la Centrafrique.
Marie-Vonne, le mot de la fin ? Vous, comment vous sentez à 2 jours de la sortie, là où le public va pouvoir découvrir l'histoire de votre fille ?
Plutôt excitée, parce que maintenant je suis sûre que c'est un très beau film, que c'est le film à voir cette année, que je pense que la jeunesse va s'y retrouver, mais que les générations plus anciennes également, et que c'est important de continuer à transmettre, justement par le cinéma, ce genre de film, et de rendre hommage et d'en parler. Et voilà, il faut vraiment y aller, quoi. Ouais.
Nous, c'est ce qu'on vous conseille. En tout cas, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine. Ça sort mercredi au cinéma. Ne le ratez pas. Ça s'appelle Camille. Voilà, allez-y, nombreux. Merci à tous les trois d'être passés nous voir. Merci Nina, merci Boris, merci Marie-Vonne. Et je vous dis à très vite. Et on croise les doigts pour vous, bien évidemment. On vous accompagne dans cette aventure. À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
Tu rencontres pas les gens. T'es d'un côté de l'objectif, les pays, ils sont de l'autre.
Tu peux pas te mettre à leur place. C'est impossible.
Bah, je sais pas.
Ici là, vous n'êtes pas chez vous.
Vous c'est qui ? Vous c'est moi ?
Tu te crois meilleur que les autres ? Tu viens, tu prends et tu pars.
Camille, t'es une grande photographe. Il faut te protéger maintenant.
Tu t'es venu faire quoi ici ?
Je cherchais un ami qui s'appelle Cyril.
Oh, madame, tu te fous de moi ?
Non, je voulais pas vous.
Regarde moi, regarde encore la bague, regarde mes femmes.
T'es sûr que tu veux aller ? Tu veux venir avec nous ?
Je suis sûr.
lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, eh bien, il vous attend encore de bien belles choses dans Chute, on écoute la télé. On consacrera notamment notre coup de cœur ciné de la semaine aux municipaux. Trop, c'est trop. C'est le deuxième film des municipaux et nous aurons l'immense honneur de recevoir les Chevaliers du Fiel dans Chute, on écoute la télé. Nous aurons aussi le plaisir de recevoir Nicolas Gobbe et Eleonore Bernheim pour le lancement de la toute nouvelle saison de la série L'Art du Crime pour France 2. Ils sont père et fils dans la série Demain nous appartient. Farouk Bermouga et Grégoire Champion seront également nos invités. Et nous recevrons également les L.I.J. également le groupe des trois filles viendra nous parler de ses projets. De bien belles choses vous attendent. Alors surtout, décrochez pas, restez connectés avec nous.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé.
Sans oublier vos applications sur Android et iPhone, Chute on écoute la télé. Moi je vous retrouve demain sur Vogue Radio à 13h30 et 18h30 pour les quotidiennes. Pour la grande hebdo, ça sera lundi prochain à partir de 18h. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente-Maritime sur mariemorin.fr. Chute, on écoute la télé avec vos boucheries du bœuf tricolore, viande 100% française, 3 points de vente en Charente-Maritime, avenue du 11 novembre à Rochefort, route de Rochefort à Royan et avenue du Général Leclerc à Saint-Pierre-d'Oléron.